L'Afrique en jeu, Silver-Henri Cissé.
Et maintenant, je vais demander à M. Maurice Herzog, au commissaire à la jeunesse et au sport, de nous dire en quelques mots ce qu'on peut penser de ces Jeux, Monsieur le Haut-Commissaire.
C'est une manifestation d'amitié, puisque pour la première fois, des participants des différents États de la communauté vont se trouver réunis sur les terrains d'un seul État. Mais il faut tout de même dire que le niveau sportif sera extrêmement intéressant, puisque les meilleurs athlètes de chacun des États vont se trouver réunis. Et comme il y en a 800 et que ce sont les meilleurs, nous estimons que sur le plan international, ces Jeux de la communauté commencent bien.
Le témoignage que vous venez d'entendre date de mars 1960. Nous le devons à Maurice Herzog qui, à cette époque, en tant que haut-commissaire à la jeunesse et au sport, vantait sur les ondes de la radio française la qualité de l'organisation des Jeux de la communauté française à Tananarive, la capitale malgache. Cette compétition omnisport connaîtra deux éditions à Dakar et à Abidjan sous le nom des Jeux de l'amitié, avec une ambition clairement affichée pour la France, assurer une continuité avec les ex-colonies françaises. Mais qu'en est-il aujourd'hui en 2024, notamment en matière de coopération avec les pays africains? Quelles sont les initiatives de la francophonie quand il est indispensable de repenser les relations de la France avec le continent africain? Et le sentiment anti-français, est-ce une réalité ou un mythe dans le sport? Eh bien, nous en parlerons aujourd'hui avec Jean-Pierre Suita qui nous a rejoint dans les studios de RFI à Issy-les-Moulineaux. L'Afrique en jeu, c'est aussi le portrait d'une femme inspirante avec Sarah Anfou, ancienne de l'équipe de France de tennis de table qualifiée à Paris 2024 pour le Cameroun. Une photo, une histoire avec l'historien Stéphane Mourlane pour le boycott des Jeux Olympiques de Montréal en 1976 par les pays africains. L'Afrique en jeu, J-54, c'est maintenant. Merci Jean-Pierre Suita d'avoir accepté l'invitation de l'Afrique en jeu.
Bonjour. Bonjour tout le monde.
Jean-Pierre Suita, vous êtes le président de la Fédération française de basket, administrateur de Paris 2024, secrétaire général de l'association francophone des comités nationaux olympiques. Nous parlerons dans la deuxième partie de l'AVOBA, dont vous êtes le fondateur et qui est né le week-end dernier et qui est une avancée dans les relations entre la France et le continent africain. Mais quand nous parlons de francophonie, nous parlons aussi de l'association francophone des comités nationaux olympiques que nous allons appeler l'AFCNO, hein, pour faire beaucoup plus court. Nous parlons ici essentiellement des pays d'Afrique qui ont en commun la langue française. Les auditeurs peuvent se rendre compte qu'il y a une myriade d'associations qui gravitent dans le sport. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, dans l'AFCNO?
Alors, c'est l'FCNO, on l'appelle l'FCNO. L'FCNO, c'est une association qui regroupe non seulement les CNO, on est 48 CNO francophones, dont 33 qui sont
en Afrique, olympiques.
Voilà, les comités nationaux olympiques, plus derrière ce qu'on appelle des unions, des alliances de fédérations de sport donné. Par exemple, la fédération d'escrime, l'ensemble des fédérations francophones se sont mis ensemble, etc. Donc nous sommes une soixantaine. C'est une force de frappe qui est intéressante puisque les CNO sont des structures polyvalentes qui animent les territoires en thème sportif. Et puis les fédérations sportives sont plus, je dirais, monosport, mais en capacité d'amener une expertise. Donc aujourd'hui, l'FCNO, bon, c'est très simple. On essaie de faciliter avec les moyens que nous avons l'accès au sport à tous les athlètes francophones. Nous avons aussi la volonté de défendre la francophonie partout où on peut la défendre et bien évidemment essayer à terme de devenir un acteur incontournable de tout ce qui est sport et francophonie, en particulier vis-à-vis des Jeux de la francophonie qui sont quand même un rendez-vous récurrent, intéressant, qui mérite d'être davantage développé.
Est-ce que vous pourriez par exemple donner une action concrète que vous avez réalisée avec, moi j'appelle l'AFCNO, mais l'AFC... No.
L'FCNO, oui. Bon, deux exemples simples. On s'occupe à un moment donné de la formation de techniciens dans différents sports, sur différents territoires. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien. On a de mémoire, je crois, près de 150 techniciens qui ont été formés depuis. Et le deuxième, c'est dans le cadre du volontariat, de permettre à des services civiques d'aller sur les territoires pour amener leur contribution sur ça. Donc, ce sont des actions qui sont bien perçues par les territoires.
C'est eux que vous appelez des ambassadeurs ?
Exactement. Bon, ce sont des jeunes volontaires, hyper motivés, qui essaient d'amener... je dirais, leur expertise sur le fonctionnement et puis le développement du sport dans ces territoires.
Les Jeux de l'amitié dont je parlais en début d'émission avaient une volonté clairement politique. Hein. D'ailleurs, ils vont inspirer la francophonie qui verra le jour en 1970 à Niamey au Niger. Les Jeux de l'amitié étaient un élément structurant de la diplomatie française, notamment face au Commonwealth de l'Empire britannique et dans un contexte de guerre froide. Aujourd'hui, l'AFCNO doit se comprendre dans quel esprit ?
Non, c'est une esprit de partage, de coopération. Déjà dans les statuts, le CNOSF, dont la France assure le poste
de secrétaire
national
général. Olympique français.
Voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis secrétaire général de cette association. Mais le président est aujourd'hui un Tchadien. Donc, on voit bien qu'il y a un partage aussi des responsabilités avec un comité exécutif qui est quasiment composé de, je dirais, de représentants africains. Ça fait très, très plaisir. C'est vraiment une volonté de partage, de permettre aux Français d'être beaucoup plus présents sur les institutions, y compris sur les fédérations internationales, tout simplement. Donc, il n'y a pas cette volonté de coopération qu'il y avait pu y avoir par le passé.
Nous pouvons lire des messages anti-français sur les réseaux sociaux. Nous avons même des dirigeants africains qui délivrent des discours qui sont imprégnés de ce sentiment anti-français. Vous, sur le terrain, qu'est-ce que vous ressentez? Comment ça se passe? Est-ce que c'est un sujet pour vous?
On est au courant, bien sûr, mais je rentre de Casablanca où on était une cinquantaine de dirigeants de sport des pays donc, d'Afrique francophone. On n'a pas eu du tout ce sentiment. Au contraire, il y a une vraie amitié, il y a une volonté de travailler ensemble et tout. Donc je pense que le sport fait partie des rares activités où on peut effectivement parler librement de pas mal de choses sans être dans cette situation de ressentir un malaise.
D'ici quelques instants, nous parlons d'une autre initiative dont vous êtes à l'origine. Mais nous allons tout d'abord nous retrouver avec une femme, et c'est notre femme inspirante de ce jour.
Une femme, un destin.
Quelle joie de vous recevoir, Sarah Onfou. Vraiment, quelle joie.
Bonjour.
Quand je dis quelle joie, c'est parce que nous allons célébrer votre qualification pour le Cameroun en tennis de table. C'est fait, ça y est, vous l'avez obtenu. Hein.
C'est fait, je l'ai obtenu après des mois de combat et de tour du monde pour aller chercher cette qualif. C'est fait.
Alors expliquez-nous en quelques mots justement les difficultés que vous avez rencontrées pour obtenir cette qualification. Ça a été un véritable chemin de croix. Hein.
Oui. Autant les deux premières qualifications aux Jeux de Londres et de Tokyo ont été dans la lignée un peu de ce que je faisais avec mon club et sans trop de contraintes. Là, les règles ont un peu changé pour cette qualification avec un nouveau système professionnel qui nous oblige à parcourir le monde tout au long de l'année, un peu comme sur le système du tennis. Et donc, deux à trois fois par mois, on va à travers le monde faire des compétitions pour augmenter notre classement mondial et donc partir lors de ce tournoi de qualification dans les têtes de série. Donc, j'ai commencé il y a un an et demi. Je m'étais donné 16 à 17 mois pour essayer d'aller chercher cette qualif, tout en travaillant à côté à plein temps. Donc, ça a été extrêmement difficile. Et le tournoi de qualif en lui-même a été assez compliqué. Il ne fallait pas perdre un match. Donc, très compliqué, mais ça donne aussi de la saveur et encore plus de joie d'avoir été chercher cette qualification.
Pour ceux qui vous découvrent, vous êtes avocate spécialisée dans le droit de la santé. Vous êtes une métisse camerounaise française. Vous avez deux nationalités sportives. Vous chantez la Marseillaise comme le chant du ralliement. Et alors, vous avez une particularité. Vous avez commencé par l'équipe de France avant de rejoindre le Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots votre parcours?
Oui, en fait, moi, je suis née en France, dans le nord de la France. Ma mère est française et mon père est camerounais. Et donc, j'ai commencé tout simplement dans un club à Lille. Et puis après, le parcours assez classique que l'on connaît en France. Krebs de Wattigny, stage en Chine, puisque c'est le pays où on s'entraîne pour les tennis de table. Et puis l'INSEP, donc équipe de France de l'âge de 12 ans à 21 ans. Et puis parallèlement, j'ai commencé mes études universitaires à la fac de droit. Et c'était très compliqué pour moi de combiner les deux entraînements à l'INSEP, les voyages avec l'équipe de France et les études de droit. Et donc, j'ai fait le choix d'arrêter l'équipe de France quand j'avais 21 ans, juste avant le tournoi de qualification des Jeux de Pékin en 2008. Et puis parallèlement, dans tous ces voyages, j'ai eu la chance de retourner au Cameroun par le biais d'une association que j'ai créée qui s'appelle Pink Sans Frontières. Le but, c'était de collecter des équipements et de les redistribuer, et puis ensuite de partager ma passion du tennis de table en formant des entraîneurs, en organisant des training camps. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai rencontré les dirigeants de la Fédération camerounaise qui m'ont proposé d'aller plus loin dans ma démarche et de jouer sous les couleurs de Cameroun. Et ce que je fais depuis 2010, ça fait bientôt 15 ans que je joue et que je représente le Cameroun avec, je dois le dire, avec beaucoup de fierté.
Vous êtes quand même fait d'un bois assez rare, hein, puisque vous avez abandonné, je le dis bien, vous avez abandonné l'équipe de France pour privilégier vos études de droit qui sont très, très exigeantes. Vous n'auriez pas pu mener les deux de front?
Non, honnêtement, non. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas d'aménagement pour les études de droit. Vous le savez, les premières années de fac, c'est 30 à 35 heures de cours. Plus les entraînements, plus les déplacements, c'était impossible. Alors aujourd'hui, je crois que les choses ont un peu changé, mais à l'époque, ça n'était pas du tout possible. Et puis pour moi, ça n'a jamais été une option de renoncer à faire des études. pour anticiper l'avenir, mais aussi c'est pour moi aussi une question d'équilibre. J'ai besoin d'avoir autre chose en dehors du sport de haut niveau pour relativiser, pour m'ouvrir l'esprit, rencontrer d'autres personnes.
Alors comment se fait-il que la pratique de haut niveau n'était pas compatible avec vos études, mais possible avec votre métier d'avocate qui est quand même aussi très prenant? Comment vous expliquez ça?
Oui, alors j'explique que j'ai créé mon cabinet, donc je suis à mon compte en libéral, et donc c'est moi qui organise mon temps. Bien évidemment, quand j'ai des audiences, je ne peux pas partir en compétition, donc ça c'est quand même toute une organisation, mais en revanche, quand je suis en compétition, je prends mon ordinateur, je prends mon deuxième écran, et je continue de travailler en fait à distance, donc c'est aussi pour ça, vous savez que ces 16 mois ont été très très compliqués, puisque très souvent, en fait, durant les compétitions, je concluais des dossiers, je préparais les audiences. Encore récemment, vous voyez, j'étais à Singapour ou en Arabie Saoudite, au retour des compétitions, je suis arrivée le matin, à 8h et à 14h, je plaidais des dossiers en audience. Donc très très compliqué, j'ai plus de liberté, mais en revanche, je travaille 7 jours sur 7, hein, j'ai pas pris de jours de vacances depuis plus de 2 ans. Donc voilà comment je m'organise. Et ça peut bien évidemment pas continuer comme ça, parce que c'est un rythme de vie qui est quand même assez compliqué. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'arrêter à préparer. Donc ça sera mes troisième et dernier jeu à Paris. Et ensuite, je range la raquette, que ce soit au niveau international ou même en France en club. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour ma vie privée, de temps de repos et d'une un peu plus de qualité de vie également.
Bon, avec une frustration énorme, hein, parce que contrairement au basket de Jean-Pierre Sita qui est avec nous, vous n'avez aucune chance de gagner, vous, hein, avec les Asiatiques, dans votre discipline.
Oui. Les Jeux Olympiques ont été de table depuis Séoul en 88. Si je ne me trompe pas, sur 37 médailles, 32 ont été gagnées par les Chinoises. Ensuite, il doit y avoir deux autres Asiatiques et je crois qu'il y a une, deux ou trois Européennes qui ont peut-être fait podium. Vous voyez, c'est très très compliqué. Déjà, se qualifier pour nous, c'est un exploit. Sur le continent africain, en individuel, il n'y avait que trois places lors du tournoi de qualification. Donc, c'est déjà pour nous un grand défi. Alors, bien sûr, je vais au jeu en essayant d'aller le plus loin possible. Mais j'ai aussi conscience de la réalité de notre sport où c'est quand même très très compliqué d'aller chercher une médaille.
Un mot sur votre association Ping Sans Frontières qui est formidable. Dites-nous ce que vous réalisez, ce que vous faites.
Oui, ça fait depuis plus de 15 ans maintenant qu'on parcourt le monde et principalement le continent africain en organisant des training camps pour les jeunes, en faisant de la formation d'entraîneurs. Mais depuis quelques années, on a essayé d'aller plus loin en faisant des formations à la construction de tables artisanales pour que les personnes soient complètement autonomes et puissent construire leur table, organiser les clubs et les compétitions sportives. Et là, on va lancer dès cet été notre nouveau projet, c'est l'impression 3D des raquettes de tennis de table. On a déjà fait des tests ici et l'idée, c'est bien évidemment d'aller faire des formations, de transmettre ce qu'on peut transmettre pour qu'à nouveau, il y ait une possibilité pour les pays dans lesquels on intervient de développer cette filière-là, de dégager des revenus pour financer les activités sportives. Parce que je crois que ça, c'est aussi un élément clé, c'est qu'il faut pouvoir dégager des ressources de manière indépendante, sans dépendre des subventions pour que le sport puisse être développé. Et c'est notamment pour ça qu'on a essayé d'aller plus loin avec la construction des tables artisanales et ce nouveau projet d'impression 3D des raquettes de tennis de table.
Combien de pays pour Ping Sans Frontières ?
16 pays avec sur le continent africain 5 gros projets, notamment en Ouganda et au Sénégal, puisque comme cela a été dit, hein, il y a les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026. Et là aussi, on va essayer d'être très présent en amont pour permettre le développement du tennis de table au Sénégal et dans toute l'Afrique de l'Ouest.
Vous êtes formidable, on va vous suivre. Un grand merci, vous êtes notre femme inspirante de ce jour. Merci à vous.
Merci à vous.
Vous écoutez l'Afrique en jeu sur RFI avec Silver-Henri Cissé.
Jean-Pierre Suita, vous êtes le président de la Fédération française de basket, administrateur de Paris 2024, secrétaire général de l'Association francophone des comités nationaux olympiques et vous êtes aussi à l'initiative de l'AVOBAC que vous avez lancé le week-end dernier à Casablanca au Maroc. Encore un autre programme de coopération mais avec une particularité, c'est que celui-ci il est tricéphale, Jean-Pierre.
Oui, c'est vrai. Bon, beaucoup de fédérations sportives en France ont des accords bilatéraux avec certaines fédérations à l'étranger, dont l'Afrique. On a fait de très belles choses, les trois sports de salle, le handball, le volley et le basketball dans les Jeux de Tokyo. Et donc, un signal tout simplement de dire, mais allons plus loin à trois. Donc, on a cherché à créer cette fondation qui est hébergée à la Fondation du sport français. Nous l'avons appelée AVOBA, le HA de hand, le VO de volley, puis le BA de basket. Et l'objectif, c'est de travailler. Nous sommes soutenus par l'Agence française de développement. On en est ravis de ça. Et l'objectif, c'est aider donc nos partenaires, pour le moment, ils sont 6 pays d'Afrique, à se structurer et surtout à travailler sur le champ de la jeunesse et sur le champ de la pratique féminine. Et puis, toutes ces problématiques de digitalisation, etc. Donc, on a fait le lancement de tout ça à Casablanca. Moi, j'avais profité pour inviter les autres pays partenaires du basket. On était très, très nombreux. C'était vraiment magnifique. Et puis, il y a un élan. Je pense qu'on a envie de faire davantage.
Donc, il y a le Bénin pour l'instant, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc qui sont concernés par ce programme. Vous avez évoqué quelques pistes que vous allez mettre au point. Mais quel est le premier programme que vous allez lancer, sur lequel vous allez travailler, qui est urgent, que vous devez absolument là mettre en œuvre?
Alors, la première chose, on a fait ce qu'on a fait le week-end dernier, c'est un état de leur situation avec leur vision de développement stratégique de leur propre fédération, avec le contexte local, etc. On va travailler très vite sur les problématiques de digitalisation.
C'est important.
Ah oui, c'est important. Bon, déjà, les aider peut-être à mieux structurer leur fédération, mais aussi à protéger leurs jeunes, tout simplement, parce qu'il y a tellement de talents dans ces pays que ces jeunes partent en Europe, partent aux États-Unis sans être protégés. Bon, l'idée, c'est que du moment où on arrive à traiter un peu ces jeunes au travers de la digitalisation, c'est-à-dire la prise de licence, etc., et le suivi, on peut imaginer qu'un jour, demain, il y aura un système de solidarité, comme ça existe d'ailleurs au foot, où les clubs, les fédérations d'Afrique qui ont travaillé, qui ont détecté, qui ont commencé le travail, puissent bénéficier de ce travail au travers du retour financier.
Cette organisation, l'AVOBA, n'est-ce pas pour vous aussi un instrument pour lutter contre l'hégémonie du football?
Oui, bon, c'est vrai que le foot est présent un peu partout, y compris en Afrique. Mais bon, je dirais, c'est compliqué pour certains pays, effectivement. Mais à trois, je pense qu'on est capable. Alors, votre volonté, c'est pas de se battre contre le foot, mais de représenter une masse importante de pratiquants. On l'a vu. Puis, dans certains pays, bon, le basket est roi. Moi, je pense au Sénégal. Je pense à beaucoup d'autres, mais le Sénégal est un vrai exemple. Et on peut imaginer qu'AVOBA puisse jouer un rôle autour de 2026. On en parlait tout à l'heure avec ces Jeux olympiques de la jeunesse.
Que répondez-vous à ceux qui avancent que c'est un instrument supplémentaire de la France pour conserver son influence?
J'en suis le témoin, comme l'autre aussi. On n'a jamais parlé de ça. Je dirais, c'est d'abord les échanges, c'est l'humain. On est entre passionnés et on se sent responsable quand même. Vous savez, nous... Bon, je représente moi une grosse fédération de sport. Notre obligation, c'est d'aider les fédérations moyennes et les petites fédérations. Et derrière, on le fait sans vraiment réfléchir à autre chose, très sincèrement.
Deux mots sur les équipes de France. Alors là, vous avez quand même deux monstres. Wembanyama et Rudy Gobert, sans compter les autres. Une médaille d'or, c'est possible? Allez, battre les Américains, c'est possible?
C'est toujours possible. On a failli plusieurs fois. On a failli en 2019, on a failli en 2021. Bon, on les a battus une première fois, ils ont retrouvé un final. Bon, ils ont sorti aujourd'hui la très, très grosse équipe. Mais ça va être très, très relevé sur les 12 équipes. Il y en a 10 qui peuvent prétendre une médaille. Les Américains sont très forts, les Canadiens sont très forts. Bon, ça va être bien. Mais je n'oublie pas aussi le basket féminin. On va être présent aussi avec l'équipe de France. Et puis, je n'oublie pas aussi les 3 contre 3. On a les deux équipes de France qualifiées. Et un petit cocorico quand même. Après les Américaines, nous sommes la deuxième nation à avoir les 4 équipes de France qualifiées.
Qu'est-ce que vous ressentez, vous, en tant que... ancien formateur, parce que vous avez entraîné. Pour la petite histoire, quelqu'un m'a raconté que vous preniez une camionnette pour transporter les filles de votre équipe il y a fort longtemps. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, en tant que formateur, avec tous ces jeunes que vous avez vu pousser, qui sont nous des monstres?
Bon, c'est une grande fierté. Bon, déjà, ce qu'on connaît, ce qu'on voit aujourd'hui, mais ce qui arrive demain. Quand on voit tous ces potentiels, aujourd'hui, nous sommes devenus une nation vraiment à regarder avec beaucoup d'envie. Donc, c'est surtout une fierté. Bon, c'est un travail, un entraîneur, un ingénieur, puisque je suis ingénieur, c'est un bâtisseur. Donc, on a envie de bâtir pour le basket et le sport de demain.
Merci Jean-Pierre Suita d'être revenu au micro de l'Afrique en jeu, justement pour nous expliquer quels sont les enjeux de coopération avec le continent africain.
This your love is foreign. When I hear ring, 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 now your love is calling. I can put money for your waist, for the bad when you give me with the best. I can put money for your waist, for the bad when you give me with the best.
can put money for your waist. For the bed and you give me with the best. I can put money for your waist. In the bed and you give me with your waistline. Can you know the sea? Feeling that I feel. Can you know the feel? Waiting I want to.
L'Afrobeat de Eneyat avec Love is Calling. Chaque semaine dans l'Afrique en jeu, nous vous racontons un épisode marquant inscrit dans l'histoire des Jeux. Aujourd'hui, le boycott des Jeux Olympiques de Montréal en 1976 par les pays africains.
Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques de 1976. Célébrons la 21e Olympiade de l'ère moderne.
C'est en français et en anglais, noblesse oblige, que la reine Élisabeth d'Angleterre a donc ouvert les 21e Jeux Olympiques d'été de Montréal en présence de plus de 70 000 spectateurs. Ouverture dans la joie, la liesse même, avec le défilé traditionnel des athlètes. La reine Élisabeth, qui restait debout pendant tout ce défilé, a souri avec fierté et un regret tout de même, un regret, l'absence de 26 pays en majorité africains. Ils ont voulu protester ainsi contre la participation de la Nouvelle-Zélande aux Jeux de Montréal. Ils lui reprochent à la Nouvelle-Zélande d'avoir envoyé une équipe de rugby en Afrique du Sud, pays où la ségrégation raciale a débouché il y a quelques semaines sur les violentes émeutes que l'on connaît.
Ces émeutes que l'on connaît et inscrites tragiquement dans l'histoire sont celles du ghetto de Soweto. Elles ont lieu le mercredi 16 juin 1976. Ce jour-là, des étudiants et lycéens sud-africains manifestent contre l'utilisation de l'Afrikaans comme langue d'enseignement. Que fait la police sud-africaine? Eh bien, elle réagit par une réponse d'une grande brutalité. Elle disperse la foule à balles réelles. Oui, je dis bien à balles réelles. Le bilan est lourd. 21 jeunes tués et 200 blessés. Sur l'application Pure Radio de RFI à la page L'Afrique en jeu, vous pourrez voir une photo emblématique de ce drame. Deux semaines seulement après le massacre de Soweto, les All Blacks, la fameuse équipe de rugby néo-zélandaise, entame une tournée de test match contre l'Afrique du Sud comme si de rien n'était. Eh bien, vous imaginez, ce déplacement va susciter une très vive émotion. C'est un scénario difficile à admettre pour les pays africains. Ils réclament, ils exigent l'exclusion de la Nouvelle-Zélande des Jeux Olympiques de Montréal au nom de sa collaboration avec un État raciste dont la politique est condamnée par le monde entier. Le comité olympique, quant à lui, va refuser l'exclusion car le rugby n'est pas un sport olympique et il n'a pas autorité, le comité olympique, sur le rugby. Le refus d'exclure la Nouvelle-Zélande mobilise l'ensemble des pays africains qui, à l'exception du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, retirent leurs athlètes. Stéphane Mourlane, vous êtes agrégé et docteur en histoire, maître de conférences à Aix-Marseille Université. Vous enseignez aussi à Sciences Po Paris. Stéphane, pourquoi le Sénégal et la Côte d'Ivoire se sont désolidarisés du reste du continent ?
Alors effectivement, ce sont deux pays qui se sont désolidarisés et ils ont maintenu leur participation aux Jeux Olympiques en raison principalement de leur fidélité à l'ancienne puissance coloniale, la France. Et cette attitude est considérée dans un certain nombre de pays africains comme une trahison. Et on demande d'ailleurs la suspension de la Côte d'Ivoire et du Sénégal des compétitions sportives interafricaines à la suite de cet épisode.
Est-ce à dire que Oufouet Boigny et Senghor, les présidents de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, n'étaient pas vraiment intégrés à l'organisation de l'Union africaine qui a été à l'initiative de ce boycott ?
Oui, alors l'Ivoirien Oufouet Boigny est un partisan initialement de la coopération interafricaine, mais encore une fois, dans la continuité d'ailleurs de son attitude d'avant l'indépendance, il est surtout considéré comme l'homme de la France-Afrique, c'est-à-dire cette étroite coopération avec l'ancienne métropole, et d'une certaine manière, il se présente comme une sorte d'avocat incontournable des intérêts français en Afrique. Au passage, Oufouet Boigny, sur l'Afrique du Sud, a une position ambiguë, puisqu'il dialogue avec le gouvernement raciste de l'apartheid, mais il finance aussi les opposants de l'ANC. Senghor, lui, à la tête du Sénégal, est souvent aussi considéré comme une sorte de parangon de cette France-Afrique. Il est d'ailleurs souvent en retrait réservé, notamment à l'égard de ceux qui souhaiteraient aller vers une intégration, vers une fédération des États africains. Lui tient à l'indépendance et il défend une Afrique des États, en écho quelque part d'ailleurs à la posture du général de Gaulle à l'égard de l'intégration européenne.
La position du Comité olympique interroge aussi. Était-il insensible au sort des Africains ou certains de ses membres avaient de la sympathie pour le régime sud-africain ?
Alors, on peut dire que à la tête du Comité international olympique, la question de la ségrégation en Afrique du Sud n'est pas une préoccupation première. Au moins jusque dans les années 1950, au moment où cette question justement de l'apartheid, elle est posée au niveau international et au niveau des Nations Unies. Et à ce moment-là, Avery Brundage, qui n'est pas proprement parlé un progressiste, s'oppose à toute forme de sanction à l'égard de l'Afrique du Sud. Et il faudra la pression internationale, et notamment au sein du CIO, la pression des représentants des pays africains pour que les sanctions s'exercent et l'Afrique du Sud est écartée des Jeux Olympiques dès 1964 et finalement exclue même du Comité international olympique en 1971.
Avery Brundage, qui était le président du Comité olympique international à l'époque, un Américain. Quelles incidences auront le départ des Africains sur les Jeux olympiques de Montréal ?
Alors, sur le plan sportif, ce sont au total 441 athlètes sur 6000 qui quittent les Jeux olympiques. Il y a à Montréal 22 sports au programme, 14 seront affectés par ce boycott. Et bien évidemment, le sport le plus affecté, c'est l'athlétisme, puisque les Africains se sont imposés comme des athlètes de premier plan, depuis la première médaille d'or obtenue par un représentant d'un État africain à Rome en 1960, lors de l'épreuve du marathon, il s'agit de l'Éthiopien Bikila. Et au-delà du marathon, en 1976, en athlétisme, on peut penser au Tanzanien Philbert Bailly, un spécialiste du 1500 mètres, on peut penser aussi à l'Ougandais John Akiboua, qui a été champion olympique à Munich sur 400 mètres, et qui sont des favoris pour remporter leurs épreuves respectives. Alors, sur le plan aussi de la géopolitique sportive, en un mot, c'est un échec pour le CIO qui démontre une nouvelle fois son incapacité à faire valoir le caractère apolitique du sport, l'un de ses leitmotifs depuis la rénovation des Jeux à la fin du 19e. Et puis, en refusant, après d'ailleurs quelques tergiversations, de sanctionner les pays qui ont boycotté, eh bien, le CIO, force est de constater, voit son autorité s'affaiblir. Et Lord Killanin, le successeur d'Avery Brundage à la tête du CIO, le regrettera quelques années plus tard.
Merci Stéphane Mourlane. Je précise que vous êtes co-commissaire de l'exposition sur les Jeux Olympiques qui se tient en ce moment au musée de la Porte Dorée à Paris. Merci à vous.
Merci.
L'Afrique en jeu, c'est terminé. Merci à la Sonothèque pour les archives et à Cécile Bonissier à la réalisation. Pour se quitter, je soumets à votre sagacité l'aphorisme du cycliste Bernard Hinault qui disait « Chaque jour, il y a quelque chose qui me rappelle pourquoi j'aime ce sport. » Eh bien, chaque jour, il y a quelque chose qui me rappelle pourquoi j'aime vous retrouver le samedi à 11h30 en temps universel. Rendez-vous, même heure, même endroit la semaine prochaine. L'Afrique en jeu est également disponible en balado-diffusion dans les podcasts de votre application Pure Radio de RFI. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous.